tous les ans, mais en plus les états généraux de la poésie, ce qui n'est pas rien. On va en reparler dans un instant. Et donc, je crois que, j'espère que je suis le 20e à les saluer sur cette scène, mais plus il y en aura et mieux ce sera. Avant de vous présenter donc les 7 poètes qui sont réunis pour cette table ronde, qui n'est ni table ni ronde, quelques mots pour en présenter les enjeux. Notre thème, la poésie dans la cité, est finalement beaucoup plus énigmatique qu'il n'y paraît. Et ma première question sera de demander à chacun d'entre vous comment il l'entend. Moi, je ne suis toujours pas très sûr. Bon, la poésie dans la cité, ici, maintenant, c'est ce marché, évidemment, est clairement une situation qui est plutôt enviable, même si elle est évidemment complexe. Voyez les centaines d'éditeurs qui sont autour de nous, les milliers de lecteurs qui tournent sur la place, les états généraux que j'évoquais à l'instant, bien sûr. Donc, un marché visible, même s'il est protégé et finalement pas si visible que ça depuis la rue. Derrière les livres qui sont en arrière-plan, lisibles et illisibles, et nous, audibles, j'espère, et probablement inaudibles aussi avec une parole semée à tout vent, pour ne pas dire une parole qui parfois risque d'être couverte par les cloches. Sans oublier la périphérie. La périphérie, c'est une cinquantaine de lieux accueillant pour la poésie pendant près de 2 mois. Alors, au-delà de toutes les initiatives qu'on dira grand public, j'ai encore vu que le métro, comme d'habitude, la RATP, continuait à frapper. Il y a de la poésie dans le métro. Évidemment, de la place de la poésie dans l'école, je pense que ce serait bien qu'on en reparle aussi, même s'il a aussi méfiance quant à l'idée de la poésie, parfois, qui peut être véhiculée par l'école dans les petites classes. La poésie est-elle aussi en marche? Pardon pour cette facilité destinée simplement à réveiller les énergies en fin d'après-midi. Si on ajoute l'effervescence dans les nouveaux médias, les flux poétiques qui traversent d'innombrables canaux, la poésie augmentée, vibrante, ouverte, transpoétique aussi. Si l'on regarde le nombre de publications, j'en parlais tout à l'heure avec Florence Trocmé qui anime ce site incontournable qui est Poésie Bao et qu'il faut absolument consulter jour et nuit, à peu près 10 à 15 livres de poésie qui paraissent chaque semaine. Et Florence Trocmé me disait tout à l'heure, cette semaine j'en ai eu plutôt 20. Donc le bilan est finalement plutôt flatteur. En un mot commençant, la poésie diffuse. Alors évidemment, il faudra aussi relever les éternels problèmes de distribution, une présence qu'on dira irrégulière dans les médias, les contresens relativement nombreux qui pèsent sur la perception qu'un certain public peut avoir de la poésie. Cela étant dit, poésie dans la cité, il y a. Est-elle cependant visible, audible, lisible? La question reste pour le moins ouverte. Pourquoi ce manque de réception ressenti comme injuste par les poètes? Avant de renvoyer ces questions à nos invités, je voudrais tout de même partager une sorte de mise en garde. On verra comment elle est accueillie. Ce n'est pas moi qui la formule, c'est un autre poète, Antonio Rodriguez, qui vient de sortir chez Tarabuste un livre absolument remarquable, le deuxième tome de sa trilogie, qui s'appelle « Après l'Union ». Et précisément dans son entretien important avec Florence Trocmé, paru sur Poésie Bao il y a quelques jours, une semaine peut-être, voilà les mots que je reprends, les mots d'Antonio Rodriguez. Je le cite. « Nous devrions davantage nous occuper des manières de s'approprier la poésie aujourd'hui. Comment les gens, face au mot « poésie », écrivent, se mobilisent, disent, lisent, transmettent, critiquent, se disputent, rêvent, parlent, participent, se passionnent, comment valoriser toutes ces énergies impliquées? C'est une magnifique époque pour la poésie, continue-t-il. Qu'en faisons-nous personnellement, collectivement? Et il dit, face à ces questions centrales, j'ai l'impression que nous souffrons encore d'un modèle éculé qui provoque d'interminables luttes narcissiques pour se dire poète ou grand poète. Si on fait de la poésie pour devenir poète, on le sera. mais on passera en partie à côté de la nécessité de la poésie. Le vivier est dense, tout est là. Tous les moyens éditoriaux, techniques, économiques, émotionnels, intellectuels sont là, mais les énergies se dispersent trop dans des rêveries et dans des impuissances individuelles. Voilà, je pense que c'est un bon programme pour commencer. Donc je vous présente maintenant les participants. Je vais aller dans l'ordre en partant de ma droite. Donc juste à ma droite, Ariane Dreyfus, qui vit et enseigne en région parisienne, qui anime aussi des ateliers d'écriture. Et je dis un mot de chacun pour avoir le temps de discuter. Son dernier livre chez Flammarion, l'année dernière, Le dernier livre des enfants. C'est bien ça, Ariane. Voilà. Ensuite, juste à côté d'Ariane, Jacques Darras. Évidemment, tout le monde le connaît. Il faudrait des heures pour résumer la biographie de Jacques Darras, originaire de Picardie, maritime, bien sûr, qui pratique la poésie, l'essai, la traduction de l'anglais, qui a reçu de multiples prix et qui a été, faut-il le rappeler, le directeur du marché pendant de très nombreuses années. Si le marché atteint son acmé maintenant, c'est évidemment grâce à lui. Son dernier livre chez Gallimard, dans la collection Poésie Gallimard, l'année dernière, L'indiscipline, l'eau, anthologie personnelle, 1988-2012. À côté de Jacques Darras, Véronique Pitolo, donc née à Douai, qui vit et travaille à Paris, et qui a eu, c'est important, qui a reçu le prix Yvan Goll en 2009, prix qui est un prix qui est décerné ici, qu'il a été décerné hier à deux auteurs. Dernier livre publié aux éditions de la Tente en 2014, Une jeune fille dans tout le royaume. À côté de Véronique Pitolo, donc Shimus Daktekin, j'espère que je prononce convenablement Shimus, né en 1964 à Orhun, un village kurde dans les montagnes du sud-ouest de la Turquie, à Paris quand même depuis longtemps, depuis 87, et son dernier livre au Castor Astral l'année dernière, À l'ouest des ombres. Nous restons dans le sud avec Tahar Bekri, qui est né à Gabès en Tunisie, qui écrit en français et en arabe. Je pense que c'est aussi pour nous un point important. Et son dernier livre paru l'année dernière chez Almanach, Mûrier triste dans le printemps arabe. Yves Jouan, à côté, secrétaire général des rencontres chorégraphiques de Bagnolet pendant très longtemps, mais évidemment aussi auteur. Alors là, le dernier livre, c'est le prochain livre, apparaître donc à l'atelier du Grand Étras, La phrase de notre vie. Il est paru. Donc, nous sommes en 17, il vient de paraître. Et enfin, Jean-Baptiste Parra, beaucoup le connaissent aussi, poète, traducteur, critique d'art, rédacteur en chef inamovible de notre si indispensable revue Europe, qui évidemment est un élément, un pilier essentiel de la poésie dans la cité. Et puis, il a reçu le prix Apollinaire, puisqu'on parlait des prix, en 2006 pour son recueil « La fin des ombres ». Voilà. Donc, j'ai tenu quelques propos tout à l'heure qui pouvaient être à la fois incitatifs et peut-être polémiques. Donc, qui a envie de réagir en premier, peut-être sur la place de la poésie et pourquoi pas aussi la place des poètes. Véronique. Véronique Pitolo qui cherche un micro désespérément. Elle l'a trouvé.
Un, deux, trois. Non, c'est aussi parce que j'ai une lecture tout à l'heure et je vais pas pouvoir rester très longtemps.
Très bien. Bon.
Je savais pas trop comment préparer ce débat. Et bon, moi, je publie des livres depuis une vingtaine d'années. Je suis assez active dans les ateliers d'écriture, dans l'éducation nationale et dans le monde de la santé. Et notamment, je pensais à une chose, une anecdote. Il y a quelques années, j'interviens en pédiatrie à Gustave Roussy, où je fais des ateliers d'écriture, et quelqu'un m'avait demandé comment tu peux évaluer ton action pour avoir des subventions pour l'atelier d'écriture, etc., etc. Et le mot évaluer, quand on parle de poésie, en plus dans le monde de la maladie, j'avais trouvé ça assez étrange, et évaluer, action, enfin tout un vocabulaire managérial, et j'avais dit à la personne, l'évaluation c'est ça. C'est les productions, c'est les poèmes des amateurs et des enfants et des ados. Et il avait trouvé ça très bien. Et du coup, les subventions ont été reconduites depuis. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le poète dans la cité, c'est quand même quelqu'un qui fait quelque chose de non utile, de non quantifiable, de non évaluable dans une société où tout où tout s'évalue, où tout se compte. Et je vais lire un extrait d'un petit texte qu'on m'avait demandé aux éditions de La Fabrique, un livre collectif. Et toi aussi, tu as des armes, il y a 4 ans, et j'avais cité Baudelaire. Dans mon cœur mis à nu, Baudelaire donc affirme « Être utile m'a toujours paru quelque chose de bien hideux ». Donc, voilà, la place du poète dans la cité à l'époque, mais je pense qu'on peut toujours l'affirmer aujourd'hui. Et une parole un peu plus radicale, quelques années plus tard, Huysmans, flairait une sottise invétérée, un tel mépris pour la littérature dans ses étroits cerveaux de négociants, exclusivement préoccupés d'argent et accessibles à cette basse distraction des esprits médiocres, la politique. Donc la politique qui est une basse distraction des esprits médiocres. Et donc le poète rentrait en rage chez lui et se verrouillait avec ses livres. Bon, voilà. Il est dans la cité, mais il est dans sa chambre aussi. Et voilà pour la politique. Ce que je voulais dire, c'est aussi ce que je pense de la politique aujourd'hui. Merci.
Voilà, donc c'est un discours très complet. Qui est-ce qui pourrait rebondir une parole peut-être qui soit à la fois partagée entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs? Jacques Darras a le micro, donc je sens qu'il va intervenir.
Il se trouve que, comment dire, en réfléchissant au sujet qui nous était proposé, le poète dans la cité, je me suis dit... Je ne vais pas être trop long, hein, mais j'essaie de structurer ma réponse. Je me suis dit, je vais commencer par dire que tout ce que la cité fait pour le poète. Parce qu'on est toujours dans une position revendicative, et alors qu'en vérité, la cité, et particulièrement la cité, c'est-à-dire la société française, a des positions officielles qui ne sont pas négligeables. Vous avez commencé par citer ce lieu où nous sommes. Il est évident que ce marché qui a plus de 30 ans est permis, est autorisé par la cité, en l'occurrence la mairie de Paris, même s'il faut louer l'espace, c'est quelque chose qui perdure. Deuxième aspect, on pourrait citer le Printemps des Poètes qui depuis 15 ans s'est répandu à travers toute la France, créé par Jean-Pierre Siméon, et qui, quoi qu'on en pense parfois sur le plan esthétique, sur le plan social, est une évidence et qui va se poursuivre, se continuer à partir de la rentrée de septembre. Et puis, il y a, on ne voudrait pas l'oublier, le CNL, le Centre National du Livre, et connaissant beaucoup de pays étrangers, voisins de la France, limitrophes de la France, on nous envie cette structure, le Centre National du Livre, qui existe depuis plus de 70 ans et qui a une commission spécialement voué à la poésie, que nous avons défendu d'ailleurs tous les poètes confondus il y a 4 ou 5 ans lorsqu'on proposait de fusionner cette commission de poésie avec la commission théâtre. Nous avons obtenu gain de cause. Donc les poètes ne sont pas sans voix ni sans poids, en quelque sorte, dans la société. Et cependant, et vous avez signalé le nombre de recueils de poésie qui paraissent, vous dites 15 par semaine. On m'a donné le chiffre, peut-être est-il exagéré, qu'il y aurait une production de plusieurs milliers par an de recueils de poésie. Et cependant, et là je me tourne vers ma voisine de droite, il est évident, il est vrai de dire que la société française semble ne pas accepter, accueillir la poésie. Si l'on se réfère, et je m'adresse à vous, là, avec un grain de sel, si vous me permettez, à tout ce qui est les médias visuels, audiovisuels, oraux, écrits, eh bien, on a l'impression que la poésie est une grande invisible, à quelques exceptions près, qui sont tout à fait minimes. Et alors, pourquoi ? Comment se fait-il qu'il y ait cette disproportion entre une activité extrêmement puissante, extrêmement nombreuse, et puis un écho, finalement, quasiment nul ou quasiment faible? Moi, je crois que... Je termine, si vous voulez bien. Je crois que la société française est profondément une société démocratique, certes, mais profondément rationaliste. Profondément rationaliste, ce n'est pas une critique. La France des Lumières avec laquelle on renoue sans arrêt, chaque gouvernement renoue avec elle, est une France qui a mis la raison politique, la raison économique, la raison philosophique au premier plan. Il y a de quantités de débats publics sur la radio, à la télévision, qui sont des débats d'origine diverse, mais jamais on ne voit effectivement la poésie. Alors, est-ce que c'est la faute simplement de la société ? Il faut qu'un philosophe, je cite Alain Badiou par exemple,
On va demander, on vous redonnera la parole, mais on va demander...
Alors je terminerai ma seconde partie.
Voilà,
simplement,
voilà,
je cite Alain Badiou, et je dis Alain Badiou, il vient à la défense de la poésie en disant « Mais vous savez, mes chers amis, c'est son dernier livre, la poésie pense. Hein ?» Alors ça, ça veut tout dire. La poésie pense... Parce que vous croyez que la poésie ne pense pas, de
Alors
façon générale.
Alors qu'en vérité, on se satisfait tout à fait du fait qu'elle parle. Oui.
D'abord, bonjour à tous.
Tahar Bekri.
Il me semble que si on parle de la place de la poésie dans la société, c'est que la société reconnaît la place aux poètes qui s'affirment dans la cité. Et leurs paroles... qui date depuis plusieurs décennies en France, mais j'ai la chance de pouvoir comparer la situation de la poésie en France et celle dans le monde arabe et la Tunisie d'où je viens, c'est cette parole qui est à l'écoute de la chose publique, c'est à l'écoute de la liberté de citoyen, cette parole qui est à l'écoute des valeurs fondamentales du citoyen. Et tout cela se dit dans une fraternité formidable, magnifique. Si les poètes ne sont pas mêlés à la chose publique, s'ils ne sont pas mêlés à la chose de la cité, leur parole est marginalisée, leur parole n'est pas en train d'être écoutée, parce qu'ils sont aussi en dehors de débats publics, en dehors de leur place qui leur revient depuis l'Antiquité. Depuis que les paroles des poètes sont là, elles sont dans la cité. Il fut un temps où le poète était en face du prince, en face du roi, en face du président. Il conteste, il se manifeste autrement que par seulement sa propre parole limitée. Et c'est parfois le débat social est limité, il est marginalisé parce que nous nous sommes exclus aussi. Évidemment, il y a la défaillance médiatique par rapport à la poésie, mais il y a aussi la responsabilité du poète qui a manqué comme gestation, qui a manqué aussi comme conscience morale d'un pays. Et je pourrais prendre quelques exemples de la poésie française comme de la poésie étrangère en général.
On peut peut-être demander aussi le sentiment de... Oui, très bien. Le sentiment d'Yves Jouan qui a une expérience un tout petit peu différenciée puisque vous venez d'un monde qui est un monde un tout petit peu éloigné parfois avec d'autres expériences artistiques.
Alors, oui, il y a différentes choses parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui a été dit précédemment par les uns et les autres. Et je rejoins en partie des choses que j'ai entendues et en même temps, je m'écarte en partie d'autres.
Écartez-vous.
La référence à Alain Badiou, par exemple, c'est vraiment effectivement son livre « Que pense le poème ». C'est un livre que je recommanderais, qui réunit un certain nombre d'interventions qu'il avait faites préalablement et qu'il a donc réuni dans ce livre. Il a cette expression que j'apprécie beaucoup. Il dit « La poésie, c'est ce qui fait dire à la langue ce qu'on n'imaginait pas qu'elle pouvait dire. » À partir de là, je pense que on est au cœur de ce qui, sans doute, fait le rapport du poète et de la cité. Rien de plus social, de plus collectif, que le matériau avec lequel nous travaillons, qui est celui de la langue, et en même temps, on l'amène vers quelque chose qui, non seulement est de l'inattendu, mais qui est tout sauf ce que peuvent en attendre certains qui l'utilisent différemment. Ce qui fait qu'il y a, dans les rapports entre les poètes et la société, la cité, au sens grec du terme, un rapport de « je t'aime, moi non plus ». On peut dire que d'emblée, le poème s'établit comme une forme d'amour de la cité, puisque si on n'aimait pas la langue, on ne travaillerait pas avec. Il y a une forme d'amour de la cité, mais c'est un peu un amour malheureux d'une certaine manière. On n'est pas tout à fait chez Pétrarque, on ne va pas être dans la déception, c'est pas ça, mais on attend peut-être parfois des retours que la cité ne nous renvoie pas. Par contre, une chose que je constate alors cette fois dans la pratique, comme toi Véronique, dans la pratique des ateliers d'écriture, que ce soit dans les milieux effectivement hospitaliers, carcéraux, les milieux scolaires, les quartiers divers, c'est que là, j'ai la sensation, mais physique cette fois, d'avoir un rapport direct comme poète avec le corps, ce qu'il est convenu d'appeler le corps social. Lorsqu'il s'agit d'ateliers d'écriture, on est dans un rapport qui s'établit à partir d'une pratique que les gens vont découvrir. Et une chose que je constate systématiquement, c'est que, mais justement sans système, c'est que au moment où quelque chose se produit dans les ateliers qui fait que les gens auront une amorce de pratique poétique, ils saisissent, peut-être sur le moment et puis en tout cas après coup, ce que ça a de libératoire, de profondément libératoire. Et là, on est vraiment dans ce qui fonde une grande partie de notre action, c'est-à-dire le rapport au corps social, mais c'est en même temps un rapport qui passe par de l'individuation. Et d'autre part, lorsqu'on a la possibilité, bien sûr, de dire aussi de la poésie aux détenus, à des personnes qui sont en difficulté psychique, à des personnes qui sont considérées comme étant à la marge de la société, il me semble que, et aussi à des personnes qui sont dans la vie sociale, qui sont des ouvriers, des employés, mais qui sont parfois peut-être éloignés de ce qu'est la lecture et l'audition de la poésie, il me semble que je participe et que nous participons à un juste retour des choses, puisque ce qui a fondé la matière de notre action, de notre travail d'écriture, de notre travail créateur, c'est quelque chose qui est un produit de la cité, produit de la cité par excellence, la langue. Donc on travaille avec ce matériau-là, et il me semble que dans les moments de lecture, dans les moments aussi où est acheté un livre et où ça se diffuse, pour reprendre le terme que tu employais tout à l'heure, eh ben c'est un juste retour des choses. Et au fond, on n'est pas tant que ça dans de l'amour malheureux. Il y a des retours.
Ariane Dreyfus, qui a aussi une expérience un peu comparable, hein, d'atelier d'écriture, entre autres.
Donc, je n'ai peut-être pas parlé tout de suite ou directement des ateliers d'écriture. Vous m'entendez ? Ça va ? Parce que je corrobore tout à fait ce que Véronique et Yves ont dit. Moi, j'ai une expérience d'enseignante et il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, et c'est pour moi parmi les plus beaux moments, non pas d'enseignante, mais en fait de poète et d'être humain, je pense. C'est qu'au début de chaque cours, en dehors de toute utilité, là je suis vraiment d'accord avec toi Véronique, je lis. Donc là, lire. Disait tout à l'heure Didier que la poésie n'est pas assez visible ni audible. Je crois que surtout ce qui manque, c'est qu'elle ne soit pas assez dite comme une parole. Et donc pour en revenir à mes classes, au début de chaque cours, j'ai choisi un poème pour ce cours-là. Et donc les élèves ont le poème du jour. Or, ce qui est très, très beau, bien sûr, les poèmes, je les aime, donc je vais vous dire que les poèmes sont beaux, mais c'est le silence. C'est le silence qui est fait, parce que de toute façon, je ne commence pas le poème avant que le silence ne soit pas là. Et c'est surtout le plus beau, c'est le silence qui suit la lecture du poème. Et je me demandais, en vous écoutant, si une des raisons qui fait que la poésie n'a pas vraiment sa place, et notamment je pense à France Culture, où il y avait une belle émission Poésie sur parole, Poésie ininterrompue, on entendait au fil des journées les poètes dire eux-mêmes leurs poèmes, parce que les acteurs c'est une chose, les poètes disant leurs poèmes c'en est une autre. Parce que la poésie, elle a à voir avec le silence, en fait. Elle vient du silence. C'est vrai, il y a ce moment de retrait qui est absolument indispensable. Et d'ailleurs, je pense à une phrase d'Antoine Aimaz qui dit que le poème, ce sont des mots sur une émotion qui rend muet. Et donc, elle vient du silence, de ce qui nous met dans le silence, dans une sorte de sidération émotionnelle. Et elle doit aboutir à du silence. Alors comment installer ça dans une société où il faut toujours remplir les oreilles, remplir le temps? Voilà.
Ce sont les élèves qui lisent?
Non, c'est moi. Je leur demande, hein, s'il y en a un parmi vous qui veut lire un poème ou en amener un que moi je lirais. Mais en fait, ça n'arrive quasiment jamais. Il y a une année, il y avait un élève qui avait commencé à amener ses poèmes à lui. Là, je ne parle pas des ateliers, c'est vraiment les élèves que j'ai en tant qu'enseignante de français. Et il a été tellement bien accueilli par les autres que je crois que ça l'a motivé toute l'année. Donc, il a continué à écrire et à nous les lire, mais c'est vraiment rarissime. Les ateliers d'écriture, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est vraiment un moment en début de cours et hors du cours. C'est un moment où on s'installe et on ne se soucie plus de faire quelque chose qui soit utile. Et je fais exprès, d'ailleurs, de choisir des poèmes qui n'ont rien à voir avec le cours.
Bonjour tout le monde. Puisqu'on parle de la place de la poésie dans la cité, j'imagine que donc, c'est par rapport à une expérience concrète que nous sommes là.
Tout à fait.
Alors, ça fait depuis 10 ans que nous organisons dans le nord de Paris, dans un local pas très grand, mais quand même près de 200 mètres carrés, avec un jardin de 400 mètres carrés. Nous avons eu le luxe d'avoir ça dans Paris en 2003. Et puisque j'avais fait mon premier recueil en 97 et que j'avais vu qu'il y avait l'espace manqué pour la poésie, et qu'il fallait donner de la place, donner de l'espace à la poésie. Quand nous avons eu ce local-là, nous avons voulu mettre des temps d'écriture. Et quand, après les premières rencontres, nous avons vu l'intérêt que ça avait suscité, pour tout vous dire, le local, c'est à Porte Clignancourt, près du marché aux puces, entre les boulevards... les Maréchaux et le boulevard périphérique. C'est ce que j'appelle un peu les limbes de Paris. On n'est plus à Paris, on n'est pas tout à fait en banlieue, donc c'est cet entre-deux qui n'appartient à personne et qui est habité à peut-être 80% par des gens qui ont des origines différentes. Et déjà, notre présence, notre arrivée dans ce quartier, c'était un choix aussi, parce que ça a été rappelé, je suis né dans un village kurde, dans un village où il n'y avait pas de roue, je dis, où il n'y avait pas de livre. Donc c'était un monde d'avant le livre. Et je suis parti, je suis venu à Paris, j'ai fait des études et je suis parmi vous. Donc comment faire pour que, pour moi, le poème, c'est le lieu d'ouverture par excellence. Et la parole, c'est ce lien qui nous, aux autres, qui fait que nous ne sommes pas des animaux. Mais la parole manque malheureusement, et le lien, tous les liens que nous avons eus, il y a la révolution conservatrice, n'est-ce pas, depuis les années 80-90, depuis Reagan, Thatcher, des gens qui essayent de réanimer tout ça aussi en France. Donc les liens qui faisaient la société, les liens qui faisaient le social, on a plutôt tendance à les couper de plus en plus. Donc c'était nous installer dans ce quartier, et essayer d'apporter notre expérience et essayer de partager, de créer ce moment, ce lien avec toute la population qui était autour. Donc à partir de 2007, nous avons rendu les rencontres mensuelles. Maintenant, c'est tous les derniers, chaque dernier vendredi du mois, depuis 2008. Ça, c'était la 10e année aujourd'hui. Nous avons reçu tout ce que la poésie française compte de noms, plus de 200, 250 poètes, nous avons reçu, toujours à chaque fois accompagné d'un musicien. L'idée, c'était de créer un certain public habitué à la poésie vienne dans ce quartier pour écouter de la poésie et que les gens qui habitent ces immeubles descendent écouter de la poésie en bas de chez eux. Et ceux qui connaissent les soirées, ils voient cette rencontre, justement, des gens qui habitent, des gens qui ont des racines diverses et variées, avec un certain public de poésie. Et ce mélange, c'est vraiment la raison d'être des soirées, créer une fraternité autour de la parole, un partage, et créer de l'égalité. Il y avait Hugo qui disait, il ne peut y avoir de rire, justement tu es en train de rire, il ne peut y avoir de rire franc qu'entre les gens égaux. Donc créer cette égalité entre les gens d'ici, les gens d'ailleurs, les gens qui ont une certaine culture, ceux qui auraient envie d'avoir accès à cette culture. Donc c'est vraiment la raison d'être et ça fait depuis 10 ans et le public est là. Et à chaque fois quand les poètes sont là, ils sont très contents de l'échange et tant que ça durera, nous aurons envie de continuer, bien sûr.
La poésie vivante, mais aussi la poésie. La poésie vivante, elle vit de mille façons et elle vit aussi dans les pages, dans les livres, dans les revues. Jean-Baptiste Parrin, grande expérience avec la tradition, d'une certaine façon, des numéros d'Europe consacrés à Paul Celan et à.
Oui, mais je ne vais pas faire. Je n'avais pas l'intention de faire de la publicité pour la revue.
C'est pour ça que je l'ai fait pour toi, bien sûr.
C'est gentil. Mais d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à cette question et essayer de la mettre peut-être un peu aussi en perspective historique. L'imaginaire de l'Occident semble avoir été durablement marqué par le décret de Platon qui, dans la République, voulait bannir le poète de la cité. Et je dirais qu'à bien des égards, depuis, la poésie a traversé les siècles comme en état de vagabondage. Je me souviens de ce qu'écrivait Maria Zambrano, une grande philosophe, une merveilleuse philosophe espagnole, alors qu'elle était chassée sur les routes de l'exil par la dictature franquiste. Elle disait « La poésie est née pour être le sel de la terre et une grande partie de la terre ne l'accueille toujours pas. » Alors certes, au fil des âges, on a vu des poètes attachés au cercle des princes, des puissants, mais en même temps, ce qui a surtout peut-être frappé les consciences et les imaginaires, c'est le bannissement des poètes de la cité. On peut invoquer ici les figures d'Ovide, exilé par Auguste aux confins de l'Empire. On peut invoquer la figure de Dante, condamné à mort à Florence et condamné à une vie d'errance. On peut invoquer l'histoire, la vie de Pouchkine, assigné à résidence par le tsar. Et puis ça continue au XXe siècle, bien évidemment. Alors aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ces scénarios-là qui se produisent, quoique l'on entend de temps en temps des nouvelles de poètes incarcérés dans telle ou telle région du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours eu comme une sorte de récurrence d'une perception d'une menace possible du poète par rapport à l'ordre établi de telle ou telle cité. Et aujourd'hui, il ne dérange pas trop, puisque la loi du silence, d'une part, et d'autre part, les lois de l'économie, font qu'il est très peu question de poésie, comme ça a été indiqué, dans les médias. C'est-à-dire que dans les médias, c'est soit l'occultation absolue, soit une part assez infinitésimale, un strapontin, dirions-nous. Quant à la loi de l'économie, disons, du point de vue des économistes, c'est pas très sérieux, c'est pas très décisif, parce que des gens qui impriment
500 exemplaires, ce n'est pas vraiment très considéré. Et même, ça devient un argument maintenant chez certains édiles de considérer que vu que ça s'adresse à 300 exemplaires, c'est élitiste. Et donc, nous, on ne travaille pas pour l'élite. On a autre chose à soutenir. Il faut soutenir les produits de masse, n'est-ce pas? Or, bon, on peut leur rappeler que Apollinaire, l'alcool, en 1913, c'est 300 exemplaires. Et ce n'est pas un naze, Apollinaire. Donc, et aujourd'hui, c'est des centaines de milliers. Mais ces gens ont une vue à extrêmement court terme. Et donc, ils quantifient dans l'immédiat et pas sur le long terme. Or, je pense que la poésie, précisément, là où elle s'affronte à ses idées dominantes, c'est déjà sur la question du temps. Parce que la poésie a un autre rapport que cela au temps. Elle a n'importe quel poète ou, je dirais, amoureux averti, enfin, amateur averti de la poésie, sait très bien qu'un poète d'aujourd'hui, il entretient une relation avec des poètes qui étaient là il y a 2000 ans et qui ne sont plus, mais dont l'œuvre vit et dont la tâche aussi des poètes d'aujourd'hui, c'est aussi de faire percevoir ce qu'il y a comme fraîcheur, comme nouveauté dans des textes fort anciens. Mais donc, voilà, moi je me place plutôt sur un terrain, je dirais, d'une sorte de conflictualité intrinsèque, en tout cas en Occident, qui est toujours là. Entre fondamentalement la poésie et la cité. Même s'il est vrai que une certaine place peut lui être faite, que ce soit les ateliers d'écriture, que ce soit à l'école, mais ce n'est pas la question. Ça. Pour moi, ce n'est pas la question fondamentale. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est que d'une certaine manière, si on analyse cette situation, il y a quand même des signes extrêmement, je dirais, des signes d'espérance qui se font jour. Dans la mesure où, précisément, les poètes ne sont pas dans le système marchand, vu le faible tirage, ça veut dire qu'ils en sont, dans leur pratique, d'une certaine manière, entièrement dégagés. Et de ce point de vue-là, à mon avis, ils préfigurent déjà, ils sont déjà l'esquisse, comme aurait dit Hans Bloch, d'un monde meilleur, qui serait absolument dégagé de l'emprise, outrancière des lois de l'économie. C'est-à-dire que ceux, et c'est très important, ce de quoi ils vivent n'a rien à voir avec ce pourquoi ils vivent. Voilà. Et je pense que là, on rejoint une question qui fait aussi lien entre poète et cité, c'est la question d'utopie, mais je peux la garder pour après.
On la garde pour après, Tahar Bekri.
Je voudrais rejoindre ce que vient de dire Jean-Baptiste Parra, qui me paraît important, par rapport à la parole poétique dans la cité. Rien n'est acquis, tout s'arrache par des combats continus. Et dans le contexte de la poésie arabe, le poète dans la cité fait peur au prince. En Arabie Saoudite, il y a un poète palestinien, Fayyad, dont j'ai traduit quelques poèmes, qui est en prison pour 8 ans. Au Qatar, un poète, Ibn al-Hajmi, que j'ai traduit, il est pour 8 ans en prison. Et on ne compte pas le nombre de poètes arabes exilés à travers le monde. C'est parce que leur parole est tout à fait du côté de la recherche des vérités qui contredisent la vérité officielle. Et cela, depuis très longtemps, dans la sourate consacrée aux poètes dans le Coran, et là pour rejoindre Platon, les poètes sont des égarés, suivis par les égarés, parce que à cause de leur imagination, à cause de leur muse, à cause de cette parole qui défie l'officiel, la doctrine, le dogmatisme, que faire encore plus par rapport à Daesh? Que faire par rapport à la situation politique actuelle où les poètes sont menacés régulièrement? Nous n'arrêtons pas de signer des manifestes parce que des poètes sont pourchassés. La cité, il y a une immense différence entre la cité démocratique et la cité qui ne l'est pas, Et le combat, je suis heureux de pouvoir vivre en France aussi parce que je peux profiter de cette parole libre. Et mon souci est de m'opposer à la confiscation de les libertés de chez moi et ailleurs. Et c'est pour ça que le combat est aussi celui de la parole audible, crédible. Quand je parlais de la conscience morale, je citerai bien d'autres exemples pour rejoindre Jean-Baptiste et d'autres, que soit le poète de Darwish, figure de sa conscience morale de son peuple, que soit les poètes traditionnellement grecs de Ritsos, mais le turc de Nazım Hikmet, d'autres. Que dire de Pablo Neruda par rapport au Chili? Que dire dans l'histoire de la poésie? Ce sont des poètes. Quand les Irakiens ont contesté Saddam Hussein, les Américains arrivent, les Irakiens ont destitué la statue de Saddam Hussein, pas celle de Badr Shakir Sayeb, le poète irakien. C'est cette parole-là qui est à défendre, c'est cette parole-là qui est crédible, c'est celle-là qu'il faut que la société, la cité, la rende audible.
Véronique Pitolo, la gratuité et le politique, alors.
Oui, je ne sais pas. Non, je sais pas trop comment répondre à ça, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps. On n'a pas, Dieu merci, on a ici à combattre dans les pays et les civilisations dont vous parliez. On ne va pas en prison pour avoir écrit un poème. Dut-il être très transgressif? Bon, il se trouve que la poésie, c'est beau, c'est lyrique d'une part, mais quand ça veut être politique, c'est beaucoup plus problématique. En fait, j'ai été un peu confrontée à ça. Parce que j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle « La révolution dans la poche ». Et je parlais de la situation économique de la société libérale de marché au moment de la crise des subprimes. Et je me disais aussi que la parole est absente du politique ici. Et évidemment, elle est dans aucune campagne électorale, ni législative, ni locale, ni présidentielle. Même... si on parle de la société civile, des non-politiques qui se présentent, on ne voit pas beaucoup la poésie. Ce que je voudrais dire, c'est que des espaces de parole comme celui-ci, le marché de la poésie, comme l'espace de Chemeus Résonance dans le 18e, qui est tout à fait accueillant, qui mêle aussi la poésie et la musique, et le Printemps des Poètes, et tout ce que fait aussi le CNL et des institutions, on a quand même de la chance aussi.
Et les maisons de la poésie partout en France.
Et les maisons de la poésie partout en France. Et donc, voilà. Je passe la parole à mon voisin.
Jacques Darin. Ah oui. Jacques Darin, vous aviez une deuxième partie tout à l'heure.
Deuxième partie. Qu'est-ce que le poète fait pour la cité et dans la cité? J'ai entendu des exemples admirables où la poésie est dans l'enseignement, comme dans les prisons, comme dans des endroits difficiles, finalement est en position de réparatrice. C'est vrai, la poésie répare. Elle répare les paroles souffrantes, elle répare les paroles malades. Elle joue un rôle d'une certaine façon psychanalytique, direct, spontané, naturel, d'une certaine manière. Moi, je pourrais dire également que j'ai, par exemple, pendant 6 semaines d'affilée, je suis intervenu dans un CES d'une banlieue difficile de Picardie, à Creil, très précisément, auprès de CM1, CM2, et également de 5e et de 6e, où il n'y avait que des élèves d'origine étrangère. Et ça a été un succès extraordinaire. Et pourquoi? Parce que j'ai fait appel à leur mémoire. Je leur ai fait apprendre, excusez du peu, Charles d'Orléans, Jean de La Fontaine, Victor Hugo, Robert Desnos, en accord avec les instituteurs. Et ils ont été absolument, les élèves, transcendés, à tel point que les 150 ont fait un spectacle devant leur famille, leurs parents, et aucun la langue d'aucun n'a fourché. Ils ont tous été absolument impeccables. Donc il y a des réserves de puissance, de potentiel dans la population scolaire en rapport avec la poésie qui sont insoupçonnées, sauf de ceux qui effectivement enseignent le français. Mais petite parenthèse, qui ne sont pas tous des poètes, d'une part, et qui n'aiment pas tous la poésie, parce qu'il y a beaucoup de profs de français qui n'aiment pas beaucoup la poésie. Fermez la parenthèse. Qu'est-ce que fait le poète dans la cité ? Alors là, je ne dirais pas qu'il est coupable, je dirais simplement qu'il ne sait pas dire ce qu'il fait. Ça fait le charme, précisément, de ce qu'il est. À savoir que la plupart du temps, de façon grandiloquente, s'il est du côté de Heidegger, il dira qu'il est le berger de l'être. S'il est du côté de Mallarmé, il dira qu'il donne un sens plus pur au mot de la tribu. Placer ça dans le contexte du XXIe siècle, c'est dangereux. Donner un sens plus pur au mot de la tribu, ce n'est pas tellement notre affaire.
Oui, c'est
vous
un
êtes
peu
bien
moins
d'accord avec cela.
Oui, c'est un peu moins le cas quand même. Là c'est un tout petit peu bien. Caricatural.
Il y a hein. Également Guy Vic qui disait cette chose extraordinaire, mais qui est en même temps extrêmement vague. La poésie, c'est autre chose. Rêver. Et puis, il y a Malherbe. On en revient toujours à Malherbe. Je reste dans la tradition française, hein, parce qu'on pourrait parler de l'Occident de façon utopique ou des pays, sinon dictature, où la démocratie est plutôt fragile. Je reste en France. Malherbe dit, ce que vous savez tous vraisemblablement, c'est un bon poète n'est pas plus utile à la société, il dit à l'État, qu'un joueur de quilles. Qu'un joueur de quilles. Et donc, je rejoins d'une certaine façon votre scepticisme. Il y a un scepticisme naturel quant à la qualité de la poésie. Finalement, la poésie dans la société, je dirais, ne peut rien. Et c'est là que je me sépare des utopies. Elle ne peut rien. Il se trouve tout simplement que pour une société rationaliste comme la nôtre, la poésie est inutile. Mais, renversement, c'est précisément cette inutilité-là qui est l'utilité suprême. Et moi, plutôt qu'une société rationaliste qui, d'une certaine façon, tolère la poésie à condition qu'elle soit pratiquée rationnellement, voire, parenthèse, je vais me faire des amis, ou lipo, eh bien, je préfère une société shakespearienne. Je m'explique en deux mots.
Deux mots.
Une société shakespearienne, c'est une société où le pouvoir est représenté par un roi et le non-pouvoir ou l'impouvoir est représenté par le fou, le clown en quelque sorte. Et ces sociétés-là, à travers les siècles, à travers les âges, sont beaucoup plus proches de la poésie. Je cite l'Irlande. En Irlande, la poésie a pignon sur rue. Elle est publiquement acceptée. Les poètes sont acclamés. Je cite également d'une certaine façon la Belgique. En Belgique aussi, les poètes sont beaucoup plus reconnus qu'en France. Je pourrais citer l'Angleterre, mais nous ne parlerons pas de l'Angleterre, n'est-ce pas, puisqu'elle n'est plus dans l'Europe à l'heure actuelle. Et donc, je renvoie à ce livre extraordinaire de Robert Graves, le grand poète anglais, qui a écrit La Déesse Blanche, The White Goddess, dans lequel il dit « Certaines sociétés, miraculeusement, ont préservé la qualité extrême, suprême de la poésie. » Je dirais, ce n'est pas le cas de la société française.
Retour au 18e arrondissement. Chimus Akeki.
Alors, retour à l'ouest.
Retour à l'ouest.
Ouais. Je disais, c'est une question de pouvoir. Qui détient le pouvoir et qui peut servir de contre-pouvoir ? Qui peut ne pas se laisser dominer ? Et le plus dangereux, c'est pour ça qu'en parlant, je parlais de la révolution conservatrice. Et donc, nous avons les quelques Trump aujourd'hui qui est à la tête de l'Occident et qui a un peu veut faire du Reagan puissance 10, comme dirait l'autre. Pour moi, le vrai problème ne commence pas dans l'Orient, chez quelques-uns, quelques égarés perdus, où on le sait de toute façon que la démocratie, le respect, la parole n'est pas à chercher de ce côté-là. Mais c'est dans les lieux de pouvoir, en Occident, quand on tue ce qui fait le lien, quand on tue ce qui fait la création et la réflexion, c'est là que ça devient beaucoup plus dangereux pour l'humanité tout entière. Je disais, dans l'histoire de Saddam et de Bush, le plus dangereux pour l'humanité, ce n'était pas forcément Saddam. Et dans l'histoire de Trump et de Assad, par exemple, le plus dangereux, ce n'est pas forcément Assad. C'est celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui peut, avec quelques bombes, faire éclater toute la planète, qui est le plus dangereux. Et donc, du coup, s'il y a solution à chercher, c'est aussi de ce côté-là qu'il faut chercher. C'est aussi, en tant que citoyen ici, nous, il faut que nous essayions de développer une parole plus inclusive, plus ouverte, où on donne la place à l'autre vraiment, et où l'autre n'est pas toujours à la porte et en train de quémander ses droits à la parole. Donc, même dans la poésie, c'est vrai que la poésie n'a pas pignon sur rue, comme tu le disais, mais même dans la poésie, où même ceux qui sont dans les exclus, il y a des plus exclus que, exclus que les exclus. Donc, comment faire pour que la parole devienne ce lieu d'ouverture, ce lieu d'éthique? Je disais, quand on écrit, pour moi, c'est être juste envers soi-même et envers l'autre. Donc, comment vivre dans cette justesse, dans cette justice avec soi-même et avec l'autre, et donner ça en partage pour que nous devenions mieux ensemble? Et ni l'Orient ni l'Occident, mais là où nous sommes, tout de suite, essayons de propager ça, essayons d'exister poétiquement dans ce monde pour que quelque chose change.
Yves Jouan, exister politiquement, poétiquement et politiquement d'ailleurs, justement, avec une parole à deux voix avec Jean-Baptiste. Mais chacun son tour, ça serait une parole à deux voix quand même.
Mais justement, c'est bien que tu aies buté sur le poétique et sur le politique. Moi, je ne crois pas, je suis désolé Jacques Darras, mais je ne crois pas que nous soyons dans une société du rationnel. Il me semble au contraire que nous sommes dans une société où les gouvernants, en tout cas, les gouvernants sont obnubilés par quelque chose qui est de l'ordre de l'appropriation privée du bien commun. Qu'est-ce qui est le
c'est
le
pas
bien
incompatible.
C'est pas incompatible, pense. Non, absolument.
C'est pas incompatible,
mais c'est une forme de rationalité qui n'est pas le rationnel absolu, disons. C'est un rationnel qui est très orienté, en tout cas.
Mais en vous parlant de la société shakespearienne, je vous dis précisément que le fou dénonce la fausse rationalité
absolument
du pouvoir.
Absolument.
C'est ça que je dis.
Je sais bien qu'on se rejoint là-dessus.
Société rationnelle, oui. Je dis française.
Mais la société shakespearienne, c'est dans le théâtre. C'est pas
il y avait l'ombre d'un désaccord, mais en vérité, tout le monde est d'accord.
Non, pas tout à fait.
Mais c'est intéressant de préciser les choses.
Une irrationalité vue du point de vue du fou, c'est-à-dire du poète.
En tout cas, le fait est que, si je poursuis ma réflexion tout de suite, il n'y a pas de bien plus commun que celui de la langue. C'est vraiment le produit de la cité par excellence. Et nous qui travaillons avec ce bien commun, nous nous heurtons à des gens qui n'ont pour objectif que de accaparer en quelque sorte le bien commun. Or là, la poésie ne peuvent pas se l'accaparer. C'est quelque chose qui est d'une résistance d'ébène, quelque chose de plus dur et de plus dense. Et à mon sens, c'est en grande partie ce qui explique qu'elle soit si peu médiatisée, si peu promue par le personnel politique. Mais je ne crois pas qu'il faille pour autant considérer que ce soit la politique qui soit à rejeter d'un revers de main. Ce sont les responsabilités politiques qui sont à considérer. Et peut-être est-ce que dans ce cas-là, il y a une part des nôtres aussi. Je me souviens d'une situation très précise. Il y a plusieurs années de ça, c'était à l'époque où Jean-Michel dirigeait encore le marché de la poésie et où Arlette Albert-Biraud était de ce monde. Et je me souviens d'une année où tout le monde parlait d'une disparition possible du marché de la poésie pour des raisons de trous budgétaires, de difficultés économiques.
De lieux dans la ville et choses comme
voilà.
Ça, oui.
Et lorsque j'ai passé la nuit à dormir, comme beaucoup de gens, et le lendemain matin, je me suis réveillé en me disant « c'est pas possible, ça ne va pas disparaître ». parce que si j'étais président du conseil régional ou ministre de la culture ou maire de Paris, je me dirais ce marché de la poésie, j'en ai peut-être pas beaucoup entendu parler, mais alors s'il disparaît, comme là cette fois je vais vraiment en entendre parler. Il se trouve que dès le lendemain, un homme politique qui s'appelle Jacques Ralit a décidé d'organiser une table ronde, mais cette fois non immédiatement publique, avec les différents représentants justement du ministère, de la ville et le conseil régional. Et le trou a disparu comme par enchantement. Mais je pense que c'est à la fois lié au sens des responsabilités qui était celui d'un homme politique, en l'occurrence, qui était Ralit, et à cette sensation et cette sorte de savoir non directement exprimé qu'ont eu sans doute les différents responsables politiques, qu'il y avait une action collective possible qui pouvait se faire jour si jamais ça disparaissait.
Les poètes pouvaient se réveiller.
Ça, je crois vraiment, très profondément, à la connexion possible entre l'action collective et la responsabilité de quelques hommes politiques. On le voit aussi dans les initiatives qui sont prises, alors à la fois dans l'existence de ce marché qui tient à des actions individuelles précises, mais il y a une réalité collective. Chez ce que fait chez Mousse, évidemment, c'est la même chose. Mais je pense que sans doute nous avons à beaucoup réfléchir sur quelle peut être l'action collective que nous menions relativement à la société, sans évacuer le politique.
Le grand
solitaire. Si je suis clair dans ce que je dis.
Si, bon. Si, le grand solitaire que Jean-Baptiste Parra va continuer sur l'action collective.
Jacques Darras a employé un mot sur lequel je voudrais revenir parce qu'il me semble important et il me permettra d'embrayer ensuite sur la question à la fois de l'utopie et de ce que je pense être non pas l'inutilité de la poésie mais son utilité fondamentale. On s'entendra sur le sens du terme utilité. Jacques Darras a dit « la poésie répare ». Ça m'a touché d'entendre ce mot qui m'a fait penser à ce que disait Francis Ponge, la poésie est l'atelier de réparation du monde. Et ce que disait Ponge, en fait, vient assez directement, à mon avis, de Baudelaire, dans un texte peu lu, alors qu'il contient un passage extraordinaire que je voudrais vous lire. C'est une grande destinée que celle de la poésie. Joyeuse ou lamentable, elle porte toujours en soi le divin caractère utopique. Elle contredit sans cesse le fait, à peine de ne plus être. Dans le cachot, elle se fait révolte. À la fenêtre de l'hôpital, elle est ardente espérance de guérison. Dans la mansarde déchirée et malpropre, elle se pare comme une fée du luxe et de l'élégance. Non seulement elle constate, mais elle répare. Partout, elle se fait négation de l'iniquité. Retenons ces mots de Baudelaire qui disait aussi, et il faut tenir les deux éléments ensemble, même s'ils semblent contradictoires, il disait aussi « la poésie n'a pas d'autre but qu'elle-même, elle ne peut pas en avoir d'autre, et aucun poème ne sera si grand, si noble, si véritablement digne du nom de poème que celui qui aura été écrit uniquement pour le plaisir d'écrire un poème. » Et donc, il faut essayer, malgré la contradiction apparente, de tenir ces deux éléments ensemble, c'est-à-dire la poésie qui se fait négation de l'iniquité, la poésie qui répare, et en même temps la poésie qui ne peut pas être réduite à aucun prix à une fonction ancillaire, à une fonction de servante. C'est Aragon d'ailleurs qui refusait d'employer le terme de poésie engagée. Ça surprendra peut-être, mais il refusait absolument le terme de poésie engagée. Il disait « on engage une servante ». Où avez-vous vu que la poésie fut jamais une servante ? Donc, essayons de tenir ces deux termes. Après, là où je voudrais revenir sur la question de l'utopie,
c'est pas tellement l'utopie comme une sorte d'utopie fourriériste avec un programme complet où on vous dépeint dans le moindre détail la possibilité d'une société future. Ce n'est absolument pas cela que j'entends par là. Je voudrais plutôt essayer de le comprendre dans le sens de ce qu'indique Paul Celan dans le Méridien, puisqu'il qualifie expressément le poème d'utopie. En quel sens peut-on l'entendre ? Mais ça rejoint le social à partir du poème, la société à partir du poème. C'est qu'on peut considérer qu'un poème, d'une certaine manière, c'est d'abord et toujours un événement de langage, c'est-à-dire quelque chose qui fait advenir du nouveau dans l'ordre du langage, qui suscite une émotion, un choc dans l'ordre du langage. C'est-à-dire qu'avec les mêmes mots qui sont ceux que l'on emploie tous les jours et où ils sont dans la communication courante, victimes finalement de notre inattention puisque nous les employons sans y prêter garde, et donc où ils sont victimes d'une sorte d'entropie et de démonétisation d'une certaine manière, dans un poème, le même mot nous regarde et nous le regardons, puisque c'est dans une relation de réciprocité d'un regard neuf. Et l'utopie, donc, si le langage invente, si ça invente quelque chose de nouveau dans l'ordre du langage, c'est donc quelque chose qui n'a encore jamais eu lieu. Et il s'agirait donc, avec la poésie, d'offrir un espace à ce qui n'a pas de lieu, et ce qui n'a pas de lieu, au sens strict, c'est l'utopie. Donc je disais que dans le Méridien, Celan qualifie expressément le poème d'utopie. Et je crois que c'est précisément dans ce rapport à cette dimension utopique, cette divine dimension utopique dont parlait Baudelaire, que le poème se déploie comme sujet. Et un sujet, non pas un sujet préconstitué, mais un sujet en acte, en train de s'autoproduire, de s'ouvrir et de se donner, de se redonner à chaque fois une place habitable, un lieu d'existence. Mais la vie, ce n'est rien d'autre que cela, se redonner à chaque fois une place habitable dans notre relation à autrui, à nous-mêmes, un lieu d'existence. Et donc, le poème intervient déjà dans nos vies parce que c'est exactement cela qu'il fait. Il tient aussi les choses ensemble. Oui. Lorsque je m'arrêterai là, je ne dirai pas plus. Lorsque je me suis retrouvé dans des situations où je devais, rares fois, où je devais parler à des élèves ou parfois à des détenus, donc à des gens qui n'ont pas forcément un commerce habituel avec la poésie, je ne voulais pas me substituer au travail qui pouvait être l'instituteur. Je me disais que ma tâche pouvait peut-être essayer de faire comprendre, enfin d'amener les élèves à réfléchir à ce que pouvait être une question fondamentale qui est la dimension anthropologique de la poésie. Et c'est à partir du moment où on comprend que la poésie a une fonction anthropologique, c'est-à-dire que d'elle dépend aussi l'idée qu'on se fait de notre humanité, je veux dire qu'on peut penser différemment les rapports de la poésie et de la cité. Je leur prends l'exemple d'une société sibérienne de chasseurs d'ours qui, avant de partir à la chasse à l'ours, disent des poèmes en l'honneur de l'ours. Et lorsqu'ils reviennent de la chasse, qu'ils ont tué l'ours, se réunissent autour de sa dépouille et l'honorent en disant des poèmes. Et je dis par exemple à ses enfants, à ses élèves, est-ce que l'ours comprend les poèmes qu'on dit devant lui ? Ils me disent, non, monsieur, en plus il est mort. Je dis bien, l'ours ne comprend pas les poèmes, en plus il est mort, est-ce que donc vous considérez que ces hommes sont fous ? Puisqu'ils disent des poèmes dans quelqu'un qui ne les comprend pas. Ils me disent, non, monsieur, ils ne sont pas fous. À partir de là, on réfléchit à ce qu'est la poésie. C'est-à-dire, on peut réfléchir au fait que dans les âges les plus reculés, même dans les civilisations sans écriture, parce que ça, tout ce corpus poétique a été recueilli début du XXe siècle en Russie, mais c'était une tradition orale. Donc, il y a eu, d'une part, le langage communicationnel, que nous avons toujours, et puis, en même temps, une autre forme de langage qui ne servait pas à la communication, qui ne servait pas à dire, qui servait à faire. Bon, j'arrête là, mais on voit quels pourraient être les prolongements de la réflexion.
Grande réflexion qu'on lira, Jean-Baptiste, parce qu'il faut qu'on, On va donner la parole à Ariane Dreyfus et aussi à Tahar Bekri qui la demande, mais peut-être d'abord qu'on va, ils concluront, peut-être qu'on va donner la parole aussi à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, et il faut que ce soit un échange et un dialogue, monsieur.
Je suis philosophe, pardon. Et je crois qu'on pourrait donner une réponse à M. Barras. Est-ce que la poésie peut penser ou pense-t-elle, ou est-ce qu'il y a des relations en appliquant une analyse pyramidale. C'est-à-dire, d'abord, nous philosophes, nous mettons tout en haut la grande morale, et ensuite l'éthique est transmise dans la vie quotidienne. Donc on pourrait presque vous appeler des éthicateurs. C'est-à-dire, vous allez dans les détails, vous sniffez, vous mettez l'arôme, vous comprenez les gens, les possibilités de conflits, etc. Et donc, sans vous, la société va se figer parce que vous aidez à transgresser les réalités données. Donc, c'est la liberté de la démocratie en question. Et actuellement, dans toutes ces Erdogan, Poutine, et Trump, etc., il y a des dangers des sociétés totalitaires énormes. Et on ne peut pas vous remercier assez pour ce que vous faites. Excuse-moi.
Merci beaucoup. On va peut-être prendre une ou deux autres questions. On va les prendre en les groupant, ça sera plus facile, hein, ça fera gagner du temps. Deux, trois questions s'il y a.
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur de français, sur l'importance du silence qui permet la réflexion et que je pense que c'est un des principaux obstacles à la poésie dans notre société qui n'aime pas du tout le silence.
Rien, peut-être un mot de...
Merci. Et puis, il y a des tas de mots que j'ai entendus sur lesquels je voudrais rebondir. J'ai entendu Jean-Baptiste parler d'attention, chez Mousse parler d'être juste envers soi-même et avec l'autre, donc le poème comme ouverture à l'autre. Et monsieur, justement, je crois que vous avez parlé du détail. Ce que la poésie apporte, c'est l'attention au détail, au contingent, et je dirais même pour élargir à l'humain, et à l'animal, peut-être, si j'ai le temps d'en parler, c'est l'attention à l'autre le plus méprisé, le plus ignoré, justement. Qui fait-on entrer dans son poème? Ça, c'est important aussi pour la démocratie. Et on parle en ce moment de néolibéralisme, mais moi, certains le savent ici, je suis extrêmement bouleversée par le résultat des élections présidentielles, parce qu'il est en train de se dessiner pour nous, parce que je crois que nous aussi, on peut être victime d'un bien commun dont certains sont en train de s'emparer. Et je crois que c'est d'autant plus important maintenant d'être attentif aux tout petits, pas simplement les détails, mais les tout petits êtres. Alors, il y a un poète qui, en ce moment, me fait énormément de bien, dont l'œuvre complète vient de paraître au Castor Astral, qui est, je ne sais pas si c'est Richard ou Robert, enfin, je pense que c'est Brautigan, voilà, c'est Richard, voilà, Brautigan. Et j'ai envie de vous lire un poème extrait de son journal japonais. Et il dit vraiment mieux que moi ce que j'ai envie de vous faire ressentir sur ceux qui sont tout en bas et ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont ignorés et méprisés, comme je vous le disais à l'instant. Alors, journal japonais, c'est vraiment un journal. Brautigan a passé des semaines à Tokyo, entre autres, et il raconte au fil des jours, au fil des poèmes, justement, des petits faits de la vie quotidienne, des étonnements, et puis aussi des gens qu'il croise, qui le touchent. Et là, il s'agit d'une jeune fille. Concert pop japonais, voilà le titre. Vous m'entendez bien ? Ça va ? N'oublie jamais, jamais les fleurs qui furent rejetées, tournées en ridicule. Une jeune fille toute timide offre au garçon popstar en herbe un bouquet de superbes fleurs entre deux chansons. Quel courage il lui a fallu pour avancer jusqu'à la scène et lui tendre les fleurs. Il les pose comme des ordures par terre. Elle reste là, elle retourne à son siège et observe ses fleurs laissée là. Puis, elle n'en peut plus. Elle s'enfuit. Elle est partie. Mais la musique continue. Je promets. Tu promets aussi. Il est très mystérieux ce « tu promets aussi ». Alors, qui promet ? Est-ce que c'est le poète qui promet à la jeune fille qui est partie, qui s'est enfuie, mais elle est dans le poème, en fait. Elle ne va plus jamais disparaître, plus jamais être écrasée, niée, ignorée, puisqu'elle est là, dans le poème. Donc, est-ce que c'est le poète qui dit, qui lui promet qu'il ne l'oubliera pas ? Est-ce que c'est le lecteur qui, une fois qu'il a rencontré cette jeune fille, qu'il ne verra jamais, qui est absente, comme l'ours, finalement, Jean-Baptiste est absent, mais le poème, il est là pour lui, il le fait exister aussi. Le tu, il est important en poésie. La place qu'on fait au tu et à l'autre.
Voilà, alors on prend peut-être une toute dernière question ou deux. Tahar Bekri, d'abord, j'allais vous donner la parole pour conclure.
Je voudrais répondre, si vous le permettez, à ce débat.
Micro.
Par un poème écrit Place de la République. Place de la République, poème écrit après l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo. Et je marche le long de l'hiver, le front en sueur, comme l'arbre nu. Je ne sais si c'est la nuit qui tombe lourde de mes paupières ou mon pas qui tremble au cœur de la houle. Tant de déserts aux bannières sombres me clouent à la stupeur enchaînée à la poussière. D'où te vient, asphalte, cette saignée noire, leurs chars rasant mes primes verts, les prières sans salut, les mausolées en débris. Voici leurs becs de vautour, leurs griffes d'ombre, et je marche sans visage. Parmi les décombres, le sourire en berne, la cécité couvrant ma vue, tant de balles pour faire taire l'encre de vos cités de lumière. Et je marche dans la nuit qui perd sommeil sur les hachachines sans alamout, sur le serpent allié à l'hydre d'hier, la gorge nouée de mille morsures. Frères, sœurs, je marche parmi vous doucement sur la terre, profanée par ces vivants nourris des morts. Ce sont vos plumes alertes comme des brins de soleil au plus haut de ma main que je sacre chant de liberté.
Le poète dans la cité, voilà, une parole, et surtout maintenant, après de vifs remerciements à vous tous, le silence.
Sans jeu de mots, je pense simplement à une petite citation de Badiou également, qui dit « La poésie existe par-dessus le marché ».
C'est toujours Badiou qui a le dernier mot. Hélas.
Merci à tous pour cette rencontre. Vous retrouverez bien entendu tous les ouvrages de nos amis poètes. On va peut-être demander votre dernière actualité poétique à chacun d'entre vous pour que les gens sachent chez quel éditeur retrouver votre dernier ouvrage, notamment Yves.
Alors, voilà, c'est un livre que j'ai signé avec Jean Mignac, puisque c'est un ensemble de poèmes qui sont des échanges de poèmes, et l'échange continue. Ce n'est pas poème adressé par Yves Join à Jean Mignac ou adressé par Jean Mignac à Yves Join, mais ce sont des rebondissements sur le poème de l'autre. Et c'est un livre qui donc s'appelle La phrase de notre vie et qui est paru aux éditions du Grand Tétras, donc au stand 617-619.
Mais ça la liste, les gens la retrouveront sans problème sur le marché. Jean-Baptiste ?
C'est mon dernier travail, c'est une petite traduction en fait dans la revue, dans le dernier numéro de la revue Europe, d'aphorismes, de réflexions aphoristiques sur la poésie par la poète russe Vera Pavlova. Je vous en donne un de mémoire, peut-être pas fidèle à la lettre. Si les poèmes sont nos enfants, les lectures de poètes sont des réunions de parents d'élèves.
Tard.
Le dernier titre, c'est aux éditions Almanach.
Aux éditions Almanach. Seymus Daktekin.
Moi, mes recueils sont essentiellement chez Le Castor Astral. Le dernier s'appelle À l'ouest des ombres.
Jacques Darras.
Chez Poésie Gallimard, L'indiscipline de l'eau et Au Castor Astral des livres également. Et chez Arfuyen également. Merci.
Ariane Dreyfus.
Chez Flammarion, donc le dernier livre des enfants, et chez Corti, un essai sur les poètes, les écrivains, les cinéastes, etc., que j'aime, c'est La lampe allumée si souvent dans l'ombre.
Et Didier Cahen.
C'est Tarabuste, le peu des hommes, et un livre avec Gérard Garouste, voilà, qui est poésie et peinture. Voilà.
Merci à tous.
Introuvable.
À 20h30, la soirée continue, bien sûr. À 20h30, nous retrouverons Eric Sarner en compagnie de Ricardo Delfra pour une petite lecture musicale magnifique qui s'appelle Simple Merveille, Histoire de voix et de cornes. Ce sera à 20h30 ici sur la scène. Mais bien entendu, entre-temps, n'hésitez pas, il y a à peu près 500 éditeurs ici sur le marché de la poésie qui vous attendent.